Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette conférence sur René Laloux. Merci d'être si nombreux et de faire honneur à cet auteur, cet artiste, ce grand artiste qui nous a quittés il y a tout juste 20 ans. À quelques jours près, il était décédé le 14 mars 2004. Donc là, c'est vraiment. On va célébrer les 20 ans de sa disparition. Donc, on va revisiter le cinéma, l'univers de ce grand cinéaste d'animation française. Je précise tout de suite, vous l'aurez peut-être remarqué, mais dans l'assistance, il y a une personne qui connaissait bien René Laloux et qui a travaillé avec. C'est Philippe Leclerc qui est présent ici, avec lequel j'aurai le plaisir ensuite, à l'issue de cette conférence, d'échanger pendant une petite heure. Et il y aura aussi bien sûr un temps où vous pourrez poser des questions et intervenir. Et ensuite, il y a une séance de dédicace avec cet autre auteur. Alors, le cinéma de René Laloux, je le disais à l'instant, grand auteur de l'animation française. Il a réalisé 3 longs métrages ainsi qu'une dizaine de courts en 30 ans de carrière. Ces 3 longs métrages qui seront diffusés demain dans le cadre de ce festival. La Planète sauvage en 73, Les Maîtres du temps en 82 et Gandhar en 87. Comme je le disais, ça va faire 20 ans qu'il a disparu et il y a une actualité autour de René Laloux actuellement, avec la ressortie ou la sortie dans de très belles éditions Blu-ray de son œuvre. La Planète sauvage est ressortie chez l'éditeur Potemkin en fin d'année dernière dans un très beau Blu-ray. Le film était déjà sorti en Blu-ray, mais si vous le possédez, n'hésitez pas à racheter celui-ci parce qu'en fait l'éditeur a complètement réétalonné le film. Il y avait un gros souci en fait sur le master et ils sont repartis de zéro avec les ayants droit et donc l'image est juste conforme à la copie cinéma d'époque. Que le point Blu-ray tirait un peu sur le verre, donc c'était pas très très joli. Gandhar, donc son troisième film, sort ce mois-ci en Blu-ray UHD, donc là c'est vraiment le top du top au niveau support physique, avec également, ça c'est chez l'éditeur Le Chat qui fume, et avec un beau coffret qui réunira également un livre inédit et le film Les Enfants de la pluie qui sort en Blu-ray également. Précision, puisque le troisième film, Les Maîtres du Temps, devait sortir au mois de mai en Blu-ray. Il va en fait ressortir au cinéma en version restaurée le 24 avril. Il devait sortir donc au mois de mai chez Tamasa, encore un troisième éditeur, que j'ai contacté à l'occasion de cette conférence, parce qu'en fait je voulais rajouter le petit visuel, puisque ce mois de mai c'est demain. Et en fait, ils m'ont dit que c'était décalé à l'automne, parce qu'ils voulaient travailler, rajouter encore des bonus inédits, et donc ils veulent faire un travail vraiment très complet. Donc on sera quand même en 2024 pour. Vous pourrez avoir les 3 films, les 3 longs métrages de René Laloux sur le meilleur support existant. Alors, René Laloux, qui est-il, hein? René Laloux, c'est un géant de l'animation française qui, dès le départ de sa carrière, on va revisiter bien sûr dans l'ordre chronologique de sa carrière, s'est tout de suite présenté comme l'anti-Disney. C'était quelqu'un qui n'aimait pas les productions Walt Disney. Il a sorti un livre dont on voit ici l'image. Ce livre-là, qui n'est plus disponible aujourd'hui, mais qui en fait a été écrit par René Laloux. C'est vraiment lui qui a, dans ce livre, défini sa vision du métier, du domaine de l'animation. Et il n'est pas tendre, notamment avec Walt Disney. Il estimait notamment, à propos de Fantasia, que c'était un film kitsch. Et que des productions ultérieures à Fantasia, qui pourtant étaient quand même un film assez ouvragé, assez soigné, mais les productions ultérieures, il les qualifiait de productions passablement dégénérées. Et il, toujours, je cite, hein, bien sûr, l'auteur, il souhaitait donc proposer une animation alternative française, avec une spécificité française. Son but était entre guillemets, était de combattre la domination tyrannique de Walt Disney, le patron poète, sur le public des enfants et par la même occasion, ses effets que nous jugions pernicieux. Voilà, il s'est tout de suite présenté comme quelqu'un qui voulait contrer ce modèle américain très standardisé, avec une animation, enfin on y reviendra, une animation très, très fluide, très souple, mais que lui rejetait, il voulait quelque chose de plus poétique, de plus posé. Et par ailleurs, il déclarait que les contes de fées pour enfants au cinéma, je trouve ça débile. Donc évidemment, avec Disney, il était servi. Par ailleurs, il avait une haute estime du cinéma d'animation, de l'animation dans son ensemble. Pour lui, le vrai cinéma, là encore une fois, c'est une citation de René Laloux, le vrai cinéma, c'est l'animation. Il disait également le travail avec l'acteur. Le travail avec l'acteur n'est qu'une pâle copie de la réalité, c'est de la photo qui bouge. Donc pour lui, le cinéma d'animation, qui est d'ailleurs à l'origine du cinéma, du 7e art, les tout premiers films, ça vient d'abord par l'animation. Pour lui, l'animation était au-dessus de tout. Donc René Laloux, on va revisiter sa carrière. Au début, ne se destinait pas au cinéma particulièrement. C'était un homme de lettres très cultivé, qui s'intéressait beaucoup à toutes les formes d'art. Mais il n'était pas spécialement destiné au cinéma dans sa prime enfance. Donc très tôt, comme je le disais, l'art l'intéressait. Il a exercé plusieurs travaux dans ce domaine-là. À l'adolescence, il a fait un stage de culture sur bois chez un fabricant de meubles, par exemple. Il a suivi des cours de dessin le soir. Il s'est essayé à l'écriture de poèmes, à la peinture en parallèle, au théâtre également. Et un jour, en 1956, il a eu un emploi pendant 4 ans, donc 4 ans c'est pas rien, de moniteur d'activité artistique au sein de la clinique psychiatrique de la Borne, dont on voit ici une photo, à Courchevernie, c'est toujours une clinique qui existe, et qui avait une méthode très particulière, puisque les patients de la clinique s'exprimaient à travers des activités artistiques. Donc pour René Laloux, ça rejoignait justement son intérêt pour l'art. Il s'est exprimé par ce biais-là et il a supervisé donc pendant 4 ans différents ateliers de peinture, d'expressions diverses et variées. Et un jour, il a eu l'idée de réaliser un court-métrage avec les patients. Un court-métrage selon la méthode du cadavre exquis. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le cadavre exquis. On donne une idée et la personne suivante rebondit dessus et ça peut mener à l'arrivée, quelque chose qui n'a aucun rapport avec le départ, mais c'est un système qu'on trouve facilement en bande dessinée. Et il a donc réalisé quelques petits courts-métrages, dont un, Les Dents du Singe, en 1960, qui a fait forte impression. Donc uniquement réalisé avec les patients en question, lui il a supervisé, il a aggloméré les idées. Et en fait ça raconte rapidement l'histoire d'un homme qui se rend chez un dentiste pour se faire arracher une dent en ignorant que en fait, le dentiste vole les dents des pauvres pour les vendre aux riches. Voilà, c'est ça un peu l'idée de ce court-métrage-là. Et ce court-métrage va faire forte impression. D'ailleurs, certains, comme je crois Philippe, estiment que c'est un de ses travaux les plus aboutis. C'est vraiment une porte d'entrée fracassante dans le domaine de l'animation. Et notamment, il y a un auteur qui va tout de suite repérer ce court-métrage, c'est Roland Topor. Alors Roland Topor à l'époque était très connu déjà, c'était pour les personnes qui éventuellement ne le connaissent pas ici, je rappelle rapidement, Roland Topor c'était un artiste dessinateur, un peintre, un illustrateur, un écrivain, un poète, un dramaturge, un metteur en scène, un chansonnier et d'autres activités, il touchait à toutes les formes d'art et donc forcément l'animation c'est quelque chose qui ne pouvait que lui parler. Alors je vais vous lire une citation de Roland Topor quand il a découvert Les Dents du Singe. Il a estimé que c'était un film extraordinaire, car il n'est ni pédagogique, ni drôle, ni spécialement destiné aux enfants. C'est un film véritablement poétique et assez mélodramatique. Son propos était très étrange pour l'époque, et le reste encore aujourd'hui, car la folie fait peur. Dans l'esprit des gens, le côté « malade », entre guillemets, occultait les qualités techniques et dramatiques du film de René. Pour eux, il s'agissait avant tout d'une expérience médicale. Pourtant, Les Dents du Singe est un film à part entière. Il se situe à des kilomètres des films issus des pays de l'Est, gorgé de bons sentiments, ou de la mièvrerie de Disney ou de Jean Image. Jean Image aussi un grand animateur français. Il comporte des moments drôles, mais aussi très émouvants. La séquence durant laquelle on arrache les gens de la table du mariage, comme on arrache des dents, est très touchante, proche de Henri Michaud ou de Kafka. Donc comme vous le voyez dans cette citation, il avait lui aussi une petite aversion pour Disney, donc ils étaient faits avec René Laloux pour se rencontrer. Donc Topor et René Laloux vont collaborer ensemble. Petite photo juste après, je regardais, il n'y a pas d'enfant dans la salle. Roland Topor, après la collaboration avec René Laloux, aura encore deux expériences dans l'animation, donc je vous montre juste une image, parce que comme ça, ça va certainement vous rappeler quelque chose. Il a participé à un film qui s'appelle Marquis, dont l'image est en haut, et Téléchat, une série télé un peu culte des années 80, Marquis, adaptation d'une œuvre qui évoque le marquis de Sade et qui donc est enfermé dans une prison et dialogue avec son sexe. Et Téléchat, qui est aussi une série qui a beaucoup marqué les personnes qui l'ont vu, qui était aussi assez étrange et qui porte vraiment la marque de Topor, qui est super. Voilà, fin de la parenthèse. Revenons dans les années 60, lorsque Roland Topor et René Laloux s'associent. Ils réalisent ensemble deux courts-métrages qu'on aperçoit ici, donc Les Temps Morts en 64 et Les Escargots en 65. Mais très rapidement, ils ont l'idée de passer à la vitesse supérieure et de réaliser un long-métrage. À l'époque, hors Paul Grimaud avec Le Roi et l'Oiseau, l'animation en France dans le long-métrage, c'est néant. Il n'y a vraiment rien. Et malheureusement, l'industrie n'est pas ouverte à ce genre de proposition. En plus, René Laloux et Roland Topor ont quand même un univers assez, assez singulier. Avant de venir à leur premier long-métrage, je vais vous faire écouter un témoignage d'une personne que René Laloux a rencontrée peu de temps après, puisque en fait René Laloux, comme d'ailleurs Philippe Leclerc qui est ici, a fréquenté Paul Grimaud, donc Le Roi et l'Oiseau, et qui à l'époque était incontournable, c'était le maître de l'animation française, tout le monde pouvait aller lui rendre visite dans son atelier rue Bobillot à Paris, et il ouvrait facilement les portes, et René Laloux s'est assez rapidement lié d'amitié avec Paul Grimaud. Et dans cet atelier, il y avait aussi un autre réalisateur très, très réputé, Jacques Colomba, qui a réalisé un long métrage qui s'appelle Robinson et compagnie, et que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques mois, et qui en fait m'a parlé à un moment de René Laloux, quand je lui ai posé une petite question de savoir comment il. Enfin, quel souvenir il avait de René Laloux. Donc je vais vous faire écouter ça. Alors. Attends, c'était. Ouais, je viens. Non, c'est là. Voilà.
Il a lancé dans votre
qu'est-ce que c'est le...
carrière, comme vous n'aimez pas. C'est La Montagne qui accouche.
Ah, La Montagne qui accouche. Ah oui,
j'avais oublié ça.
Ouais.
Rassure, c'est l'air de Noël.
Ouais, c'était. Oui, tout à fait.
Vous l'avez rencontré chez Paul Grimaud ou.
Ah, ben.
Comment ça s'est fait cette rencontre?
Toute l'animation des gars qui voulaient raconter des histoires, des conteurs, si on peut dire, passait tous chez Paul.
Ouais. Hein? C'est un peu incontournable, quoi.
Voilà. Laloux, il est peut-être resté 5-6 mois. Il avait un sujet qui était le général qui crache. Hein? Et il m'avait d'ailleurs... Il avait quitté son asile d'aliéné où il avait fait Les Dents du Singe. Mm-hmm. C'est, d'après moi, et de loin, le meilleur film de Laloux, hein, Les Dents du Singe. Mm-hmm. C'est formidable.
Ouais.
Et il n'avait pas encore rencontré Topor. Donc il s'est rabattu sur Colomba. Donc j'ai fait quelques dessins, pas beaucoup, mais j'ai fait quelques dessins pour voir ce... Et puis il a pas trouvé le financement, donc ça s'est arrêté là. Mais il est resté... Ouais, 6 mois. La Guillonne, après, il est passé par là aussi. Mm-hmm. Et là, il est resté plusieurs années, je ne sais pas, 3 ou 4, pour faire les films que vous connaissez. Hein, voilà. Et puis, André Lindon est passé.
Ouais.
Voilà. Alors, plusieurs années pour La Guillonne, 6 mois pour Laloux. Moi, je suis resté ad vitam aeternam. Et Lindon, il est resté un jour.
Ah oui,
pourquoi? Non, un après-midi, deux heures.
Pourquoi?
C'était pas du tout son truc.
C'était son truc, ouais.
Pas du tout.
Parce que même vous, on peut se dire que c'est étonnant, finalement, vous soyez resté longtemps chez Paul Grimaud, alors que vos styles étaient très différents, vos styles de dessin, votre esprit...
Ouais, mais on avait... Paul, il était très gentil avec moi, très attentif, très... Il m'amenait partout. Hein. On allait dans les boîtes écouter du jazz. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Pop, il m'amenait. Il m'amenait à Saint-Germain-des-Prés. Il me faisait rencontrer ses copains, etc. Non, il était très, très attentif.
C'est lui qui vous avait trouvé apparemment aussi la meilleure adresse de couvre-chef, pardon.
Des casquettes.
Voilà, en tweed, c'est ça, de Paris.
C'est là, c'est ça, non? Ah non, enfin, c'est au dos de quelque
chose. Vous l'évoquez, oui, dans le livret.
Ouais. Oui, bien sûr. Oui, c'était. Moi, j'ai continué à le voir jusqu'à la fin. Puisque quand il était malade après son opération, je suis allé sortir de l'hôpital en voiture, je suis allé le chercher. Et puis, j'allais souvent avenue de la Sœur Rosalie où il habitait. Et on se baladait une heure, on faisait quelques pas. Comme ça, il marchait plus très bien, mais j'ai jamais perdu de vue ce Paul.
Et vous parliez d'animation, vous
bon, non, jamais, rien, jamais, non, jamais. Quand Franju venait à l'atelier, parlait jamais de cinéma. Hein, il parlait jamais de cinéma. Il y avait le cirque de Moscou qui passait à Paris. Alors Franju, il débordait comme ça en disant, tu comprends, les acrobates. Il y en a 15. En France, si tu vas au cirque d'hiver, il y en a 2. Alors, tu comprends le socialiste que c'est, Paul? Alors, mais Franju, il avait un allant formidable. Oui.
Est-ce que vous sauriez dire quelle a été un peu les différences d'approche, enfin de collaboration avec Paul Grimaud et avec René Laloux, qui sont deux grands noms de l'animation française? Ils avaient des tempéraments très différents, ou parce qu'ils avaient tous les deux quand même. René Laloux est connu pour son franc-parler aussi.
Laloux, c'était un militant. C'était un militant du parti des René Laloux. Ça, c'était son truc. Paul, il était beaucoup, beaucoup plus détendu. Rien à voir. René, encore une fois, c'était la révolution permanente ou rien du tout.
Et dans le travail, il y avait la même rigueur pour l'un et l'autre, par contre. Je suppose.
Laloux, j'ai jamais vu travailler. Mais non, jamais. Il dessinait pas.
Ouais.
Alors, j'ai un peu travaillé avec lui sur un scénario ou deux qui n'ont pas abouti, mais. Moi, j'apportais juste un écho, c'est lui qui était le meneur du truc. Ces scénarios étaient des militants. Le général qui crache, c'était un film militant. C'était dans une famille très modeste, enfin modeste, oui, bourgeoise, mais il y avait un général à retraite et il toussait et à chaque fois il crachait des petits soldats. Et les petits soldats, petit à petit, envahissaient toute la maison, et voilà, etc. Bon, c'était un film militant.
Vous adhériez à ses propos, ou c'était...
Comment ?
Vous adhériez à son...
Ah bah oui, bien sûr. C'était vraiment un copain, on est partis en vacances ensemble à Belle-Île-en-Mer. Il a préparé la planète sauvage à Belle-Île, dans la maison de mes beaux-parents, de ma belle-famille. De ma femme, plus exactement, parce qu'il n'y a plus de beaux-parents. Mais, oui. Non, moi, il m'amusait un peu, parce que il parlait politique, mais avec un engagement, puis une rigueur. Il détestait les staliniens, mais d'après moi, il avait une rigueur qui frôlait un petit peu, mais avec une ouverture différente. Il était comme ça, très, très, très cassant. Paul, pas du tout, Paul. On n'a jamais parlé politique avec Paul, jamais. On savait où il se situait. Ouais. On n'avait pas besoin d'en parler, on savait.
Voilà pour ce témoignage audio. Alors, volontairement un peu long, parce que ça en dit quand même pas mal, je trouve, sur le caractère de René Laloux, son côté militant, très engagé. Il en reviendra un peu à la fin de son existence. C'est toujours clairement un homme de gauche, il l'assumait. Mais ses idéaux communistes, il les a revus au fur et à mesure de son existence à travers son expérience professionnelle. Alors, avant de remettre le petit PowerPoint, je vais enchaîner directement, puisqu'on arrive au premier long métrage donc, de René Laloux. Donc, comme je disais, avec Roland Topor, il réfléchissait à faire un long. Ils ont hésité au départ à adapter Don Quichotte. Don Quichotte et Gargantua aussi, Gargantua de rappeler. Et finalement, ils se sont portés sur quelque chose qui leur semblait peut-être plus... plus en phase avec leur goût personnel, parce que Gargantua, ça aurait été un film très, très lourd, ils le reconnaissaient, c'était quand même un grand titre, un grand livre du patrimoine français. Ils sont arrivés à la science-fiction. Et donc on arrive à La Planète Sauvage, dont on va avoir la bande-annonce avant de parler plus longuement de ce premier long-métrage culte.
François proclaims, a French planet shines in the sky of the Cannes Festival. L'Europe says, the film cast a spell on us, from the first image to the last. Le monde, humour, fantasy, poetry. An exciting film. Strange, frightening. Marvelous, poetic, the imagination runs wild. A great success at Cannes. The beautiful story we've long awaited. A fantastic animated French film. An event and a complete success. A French masterpiece. Fantastic Planet. Winner of the Special Grand Prix Cannes Film Festival. Special Jury Prize, Trieste Film Festival. Gold Medal, Atlanta. First Prize, Tehran. The world press acclaims Fantastic Planet.
Donc voilà pour la bande-annonce de La Planète Sauvage. Donc... Nous sommes en 73 hein, quand le film sort en salle. Évidemment, la production va s'écouler sur de nombreuses années. Ça a été une production très très compliquée. Je vais introduire avec une citation encore une fois de René Laloux qui dira à la fin de sa carrière: faire un film, c'est comme faire la guerre. Vous devez livrer des batailles, tuer tout en essayant de survivre. Et quand vous en ressortez au bout de quelques années, vous êtes complètement épuisé, psychiquement comme physiquement. C'est une démarche dont il faut être conscient dès le départ et qu'il faut assumer. Alors évidemment, l'expérience parle, étant donné que La Planète Sauvage, quand il sort en 73, est le fruit de nombreuses années de travail avec une production chaotique. À l'époque, comme je le disais, l'animation en France, hors Le Roi et l'Oiseau, qui lui-même avait connu une gestation compliquée, la production, le CNC, l'industrie du cinéma français ne pouvait pas soutenir une production animée française. Donc le film va être délocalisé au niveau de la production en Tchécoslovaquie. C'est un film franco-tchécoslovaque. Ça a été fait à Prague, où René Laloux va travailler pendant 4 ans dans des conditions rocambolesques à plusieurs titres. Alors, on pourrait passer une heure complète uniquement sur La Planète Sauvage, car il y aurait bien des choses à dire. D'ailleurs, je vous encourage plutôt à voir ce livre qui est sorti il y a peu de temps. Je n'en suis pas l'auteur, mais j'en parle tout de même parce que c'est vraiment uniquement dédié à la création, la production, et avec une analyse très, très fine, très pointue de La Planète Sauvage. Donc c'est un film très important dans l'histoire du cinéma d'animation français, Et René Laloux va avoir toutes les peines du monde à le monter, déjà parce que c'est un film de science-fiction. La science-fiction en France, dans le cinéma des années 70, c'est pas quelque chose du tout d'évident. Quand on pense à l'animation à cette époque-là, alors je vous épargne les clichés, mais c'est évidemment d'abord pour les enfants, c'est d'abord Disney, c'est des contes de fées, c'est des films, des comédies musicales, certainement pas de la science-fiction. Et donc René Laloux choisit avec Roland Topor d'adapter une nouvelle d'un auteur qui s'appelle Stéphane Wool. C'est un pseudonyme, c'était un chirurgien dentiste qui s'appelait Pierre Perrault, et il a choisi ce pseudonyme déjà pour ne pas interférer avec sa carrière, parce que Perrault, ça faisait penser aussi au conte de Perrault, il ne voulait pas qu'il y ait de confusion possible. Donc ils choisissent un roman de science-fiction de Stéphane Wool qui s'appelle « Homme sans série », qui était paru en 1957. Je crois que j'ai... Voilà, on voit ici l'auteur. Il a été aussi adapté en bande dessinée dans les années 2010. Donc adapter un auteur de littérature de science-fiction, c'était vraiment pas chose facile à cette époque-là. Et d'ailleurs, René Laloux l'admettra plus tard, l'auteur lui-même d'ailleurs le reconnaissait. Il disait que souvent ses œuvres, parce qu'il a écrit plusieurs romans, Stéphane Wool, selon les propres termes de René Laloux, il disait généralement les deux premiers actes sont géniaux, il y a vraiment une idée forte, un concept, une thématique, et le dernier acte est souvent un peu merdeux, selon son propre terme. Donc il a adapté, clairement c'est une libre adaptation de Homme sans série, que l'auteur Stéphane Wool a reconnu comme étant certainement meilleur que sa propre nouvelle. Et donc, comme je le disais, la production va être largement délocalisée à Prague. Sauf qu'il va y avoir, entre autres, parmi les multiples rebondissements pendant la production, première chose, Roland Topor a signé a fait beaucoup de travail préparatoire sur le film. Mais une fois que le film commence à être véritablement lancé, il dit, je vais pas te suivre parce que moi, je bouge tout le temps, je touche à toutes les formes d'art, donc je vais pas passer 2, 3, voire plus d'années sur un film. C'était pas quelqu'un qui restait en place, et il a même trouvé cet argument qui a beaucoup étonné René Laloux. Il a dit, Roland Topor disait, j'en ai parlé à ma mère et elle a trouvé que c'était pas une bonne idée que je fasse un film, c'était pas très intéressant pour ta carrière. Donc il lâche plus ou moins Roland Topor, il restera environ 10-15 jours à Prague, alors que René Laloux lui restera 4 ans sur place. Évidemment, il y a la barrière de la langue. Évidemment, l'industrie est très différente là-bas. Et l'histoire avec un grand H va aussi s'inviter durant la production, puisque le printemps de Prague va chambouler la production du film. Et les accords, le contrat qui avait été signé au départ quand René Laloux est arrivé, a été cassé. Et ensuite, avec le régime totalitaire, ça a été très très compliqué. La production a été interrompue pendant quelques temps, a repris par la suite. Donc ça a été vraiment très, très haché, et René Laloux, donc la production a été interrompue, il est revenu en France, il est reparti là-bas, il avait l'impression il avait peur que le film lui échappe. Donc la récit au final, quand les animateurs sur place ont vu les premières images, les premiers plans, à comprendre où il voulait aller, et à ce moment-là, on commençait à le soutenir, à le suivre dans son entreprise, et finalement à se souder pour faire aboutir ce film. Alors, je vous fais un petit résumé rapide parce que soit vous avez déjà vu le film ou soit vous le découvrirez peut-être demain puisqu'il y a une projection grâce à Anime Made in France. Donc en deux mots, c'est un peuple, les drags, qui sont des humanoïdes hein, qu'on a perçus dans la bande-annonce, de 12 mètres de haut, à la peau bleue, aux yeux rouges et qui en fait ont une intelligence surdéveloppée et possèdent des animaux de compagnie qui ne sont autres que des êtres humains, qu'ils ont réduits en esclavage. Et en fait, ils acquièrent des connaissances grâce à une sorte de casque qui leur enseigne énormément de choses. Et un jour, l'un des êtres humains va, celui qu'on a passé dans la main, va entendre ce qui se passe dans le casque et va lui-même devenir développer une intelligence phénoménale. Et il va ensuite parler à toute sa population, enfin à tous les êtres qui lui ressemblent, et ils vont tenter de se libérer, de se rebeller et de reprendre le dessus. Alors si on cette thématique justement de la domination et du renversement surtout de l'homme qui est asservi par une autre espèce ou par une autre forme d'intelligence devrait vous rappeler quelque chose, j'imagine, et à l'époque c'était tout à fait volontaire. Ce film-là, La planète des singes de Pierre Boulle, qui est aussi un auteur français. Alors, la thématique est proche. Après, le film est très différent, et dans le traitement, et dans la thématique, et surtout dans la fin, que je vous ne dévoilerai pas pour La planète des singes si vous ne l'avez pas vu. Mais en tout cas, sur la thématique, on est très proche dans les deux cas. Précision importante, les premiers courts-métrages de René Laloux étaient en papier découpé, qui est une technique qui a l'avantage de ne pas coûter très cher et d'être beaucoup plus rapide que le cellulo. René Laloux avait une sainte horreur du cellulo. Cellulo, c'est la technique de Disney. Donc c'est l'animation très fluide, et surtout il avait, lui, le besoin du contact du papier, c'est quelque chose qui lui plaisait, et donc le papier découpé lui correspondait beaucoup plus. Sauf que le papier découpé sur un court métrage fonctionne très bien. Sur un long métrage, il va y avoir tendance à beaucoup plus de rigidité, et ça, il lui-même en avait conscience. Et donc il y a un réalisateur qui était dans l'équipe d'animation tchèque, qui s'appelle Joseph Krapt, alors Kapt, je parle pas très bien de tchèque, mais qui en fait lui a donné une solution, c'était de faire du papier découpé en phase, et non pas articulé comme ce qu'on pouvait voir dans les premiers courts-métrages, ou comme on peut voir plus tard chez Michel Oslo par exemple. Donc en phase, en fait, c'est une animation hybride qui mélange papier découpé et celluloïde, et qui permet d'avoir une plus grande fluidité, et ça, René Laloux a bien voulu concéder cette chose. Par contre, évidemment, ça a un petit peu fait exploser le budget, donc c'est aussi ce qui a compliqué la production, puisque le cellulo et le papier découpé ne coûtent pas exactement la même chose. Élément important, lorsque le film sort en 73, il est sélectionné à Cannes, ce qui est aussi un événement. Cannes, qui n'est pas réputé encore aujourd'hui pour accueillir à bras ouverts l'animation, d'où qu'elle vienne, avait fait un bon accueil pour Le Roi et l'Oiseau, on avait accueilli aussi des films comme Peter Pan, comme Dumbo de Disney. Sélectionner Le Roi et l'Oiseau, c'était audacieux, et d'autant plus audacieux que cette même année, pour le cinéma français, en termes de coproduction internationale, il y avait La Grande Bouffe, hein, et La Maman et la Putain de Jean Eustache, et ces deux films-là ont fait un scandale terrible. On ne va pas développer, mais c'était deux films chocs, qui n'étaient pas du tout consensuels. Et La Planète Sauvage, un film d'animation sélectionné, c'était pareil, ça semblait être une anomalie. Et quand le film a décroché le prix spécial du jury, on voit René Laloux et Roland Topor qui sont clairement, on les sent fiers d'avoir abouti leur projet jusqu'à terme. Ingrid Bergman, l'actrice Ingrid Bergman, qui était la présidente du jury, était tellement déçue et affligée par par les films présentés cette année-là, et le fait qu'on remette un prix à un film d'animation, elle disait, remettre un prix à un film, ça montre la médiocrité de la sélection de cette année-là. Et ça, Topor et Laloux lui en ont voulu longtemps, mais à l'époque, l'image qu'on avait de l'animation, c'était clairement... Et je vous le dis encore aujourd'hui, Thierry Frémaux, qui est à la tête du Festival de Cannes, ne s'en cache pas, l'animation, lui, n'en voit guère l'intérêt. Donc les mentalités n'ont pas forcément beaucoup évolué. Alors, donc, ce film-là sort, grand succès critique, public, relatif, mais quand même, il se fait remarquer. Et donc, forcément, René Laloux veut enchaîner sur un deuxième long-métrage. Cette fois-ci, Topor lui fait clairement comprendre qu'il ne va pas s'engager sur un deuxième long-métrage, parce que lui, comme je vous le disais, signait des concepts, etc., pourquoi pas, mais il ne voulait certainement pas faire un deuxième film avec lui. Donc, René Laloux, qui lui était au scénario, à l'écriture, mais ne dessine pas, comme on l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure dans le témoignage de Jacques Colomba, décide de se rapprocher de l'équipe de Métal Hurlant. Alors, Métal Hurlant, il y aura une conférence, je crois, la semaine prochaine aussi, dans ce cadre du festival. Jeudi. Métal Hurlant, qui à l'époque était déjà une revue très, très bien installée avec d'immenses auteurs de bande dessinée français. Et en fait, il se rapproche de cette équipe-là en se disant « Je vais faire un peu le même concept que La planète des singes, continuer à adapter des textes de science-fiction de Stephen Wool, donc le fameux premier auteur de La planète sauvage. » Et il propose un concept de 10 films, 10 films de 50 minutes pour la télévision, ce qui était déjà moins coûteux et plus possible financièrement pour l'industrie française qu'un long métrage, et en s'associant à chaque fois à un grand auteur de la bande dessinée française. Donc Topor lui fait défaut, et il se rapproche de Moebius, alias Jean Giraud, pour un film qui s'appelle Les Maîtres du Temps. Donc là aussi, je dois avoir la petite bande-annonce de ce film.
Thank you. ciel projeté dans le passé en même temps que la planète tout entière par les maîtres du temps.
Jafar ! Jafar ! Oh, vieille canaille !
Sylvain, un pépin ? Oui, on est pris en chasse par un patrouilleur de la rivière.
Cours vers les Dolons ! Cours !
Piel, je te parle de très très loin.
C'est une merveille, ce petit engin. Communication instantanée dans tout l'espace 4.
Piel, est-ce que tu m'entends ? Piel, réponds-moi ! Piel ! Foncez à la navette ! Obéissez !
Pareil pour le départ ?
Jade et Yula, si quelque chose cloche, prévenez-moi par télépathie.
Oh ! Les voilà, je sens leurs pensées !
Elle est plutôt bizarre, cette planète. Les autres ont préféré rester sur Devil's Ball
pour attendre leur prochaine transformation.
Le micro reste silencieux, c'est inquiétant.
Il a dû arriver quelque chose sur Perdide.
La cérémonie est commencée. Dans quelques instants, ces malheureux individus vont perdre leur individualité. Ils seront nous. Nous serons eux.
Ce type est un danger cosmique.
Tout sera unité.
Tous ces malheureux ne sont que des marionnettes.
Dans quelques minutes, l'ordinateur nous décrochera du champ gravitationnel de la comète bleue.
Ils ont déclenché une guerre interplanétaire ou quoi ?
Je commence à croire que les hommes sont vraiment une race de fous.
Alors, les maîtres du temps, donc avec Mobius, hein, on va apercevoir des petites images de production. Donc, le film évoque rapidement, ça parle d'un homme qui est échoué sur une planète et qui parvient, avant de mourir, à contacter un ami afin de sauver son fils. Histoire un peu compliquée, mais qui, en fait, au niveau de la thématique, parle du paradoxe temporel, qui, à l'époque, était donc très en vogue. Et c'était le thème principal de du roman dont on s'est adapté, qui s'appelle L'Orphelin de Perdide, toujours de Stéphane Wool. Librement adapté, encore une fois. Et la production va être compliquée. C'est-à-dire qu'en fait, René Laloux va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à réunir des fonds pour produire ce film, malgré le succès de La Planète Sauvage. Parce qu'en réalité, tous les producteurs, les financiers et l'industrie associent La Planète Sauvage à Roland Topor. René Laloux se sentait complètement éclipsé, alors que c'est véritablement son œuvre. En tout cas, c'est co-signé, mais c'est vraiment lui qui a mis énormément qui a travaillé énormément dessus. Et donc il se sentira, disait-il, un peu vexé ou humilié, parce que justement, quand il allait frapper aux portes, on lui disait « Mais vous êtes qui, en fait ?» Topor, on l'a bien identifié, mais vous, on ne vous connaît pas. Et Topor, en plus, c'était, comme je le disais, déjà assez installé. Donc, quand il s'entoure de Moebius, qui est aussi un auteur connu, le film va se monter un petit peu plus facilement grâce à ce nom-là. On l'a perçu dans la bande-annonce, il y a aussi Jean-Patrick Manchette, qui est un pilier de Mitaille Hurlant, qui signe les dialogues de ce film. Alors, au niveau de l'entente entre les deux auteurs, sachant que pour le coup, avec Roland Topor, ils se sont fâchés suite à La Planète Sauvage, ils se réconcilieront. Petite parenthèse, à la fin des années 90, ils avaient l'intention, avec Roland Topor, ils s'étaient rabibochés, de faire un nouveau long métrage. Et puis finalement, ils n'ont pas pu pour des problèmes de budget, puis parce que bon, il était déjà malade. Donc, avec Moebius, la production se passe plutôt bien. Il est beaucoup plus impliqué que Roland Topor. Il signe un storyboard avec 1000 dessins en seulement 2 mois, donc vraiment un énorme travail, c'est pas rien. Il est beaucoup plus impliqué que Roland Topor. Par contre, cette fois, à la place de la Tchécoslovaquie, c'est la Hongrie qui va être choisie pour délocaliser une bonne partie de la production. Et là aussi, il va y avoir des soucis de compréhension, d'entente, de la barrière de la langue ne joue toujours pas. Et les relations vont se crisper avec Moebius, qui, à la sortie du film, et René Laloux lui-même le reconnaissait, trouve le film très inégal. Vous jugerez par vous-même demain si vous allez le revoir ou le découvrir. Effectivement, il y a des phases, des passages du film ou des plans qui sont magnifiques et d'autres où l'animation est plus raide. Et clairement, c'est un problème d'animation et de driver, enfin de planifier, d'être toujours aux manettes. Et René Laloux avait du mal à bien tenir les rênes comme il l'aurait souhaité. Et puis bien sûr, c'est un problème de budget, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le budget qu'ils souhaitaient, c'était rien à voir avec une production Disney, donc le résultat s'en ressent. Ça c'est Moebius. À la sortie du film, Moebius disait qu'il avait eu un effet de douche écossaise lui-même quand il a découvert le film en salle, avec des plans, avec des moments de désespoir et de grâce. Donc lui-même reconnaissait qu'il y avait vraiment... c'était un peu des montagnes russes, quoi. Et avec le recul, on peut dire que par rapport à Planète Sauvage, clairement, la qualité d'animation n'est pas la même. Par contre, au niveau du fond, c'est de la science-fiction. Pour les fans de science-fiction, c'est la même qualité que la Planète Sauvage. C'est une libre adaptation. Donc là aussi, il y a des ajouts. La fin est notamment modifiée. Les petits personnages qu'on a aperçus, la Jade et Yula, les deux petits hommes oiseaux, notamment, ont été rajoutés. Ils n'existent pas dans le texte d'origine. Le film ne va pas rencontrer un grand succès. Alors, avec les années, il a acquis un petit statut culte comme pour La Planète Sauvage, mais ça n'a pas été un succès du tout. Donc là, il va y avoir une traversée du désert pour René Laloux, qui de nouveau ne va pas être identifié au maître du temps. Le maître du temps, on va dire, c'est Moebius. Donc lui-même va de nouveau se sentir un peu mis à l'écart alors que c'était l'auteur. Et il va finir par faire aboutir son troisième film, qu'il avait commencé déjà un peu à développer avant Les Maîtres du Temps, avec du coup un troisième grand artiste, hein, qui est Philippe Casas. Donc voilà pour Gandhar, et on va voir la petite bande-annonce qui va avec.
Message prioritaire.
Servant Sylvain, le conseil féminin t'a choisi pour une mission capitale, difficile et dangereuse.
Toi, le chef ?
Ni leur chef, ni leur dieu.
Je ne suis qu'un tueur.
Incroyable.
Non. Audacieux. C'est la lutte.
Alors, cette fois pour Gandhar, ce n'est plus Stéphane Houle, mais ça va être un autre auteur français, Jean-Pierre Andrévon, qui a écrit ce livre « Les hommes machines contre Gandhar », qui va être adapté, encore une fois, librement. Et le film, rapidement, on l'a compris un petit peu dans la bonne annonce, parle d'un paisible pays de Gandhar, qui s'appelle Gandhar, qui est attaqué par des hommes de métal qui vont transformer les habitants en pierre. Ça aussi vous pourrez le revoir demain puisque ça fait partie du marathon proposé par le festival. Je vais vous faire écouter, comme tout à l'heure avec Jacques Colomba, cette fois Philippe Casas, que j'ai pu aussi interroger, qui parle un petit peu de la production. Alors, précision importante pour le premier film, La Planète Sauvage, on en parlait, c'était en Tchécoslovaquie, le deuxième c'était en Hongrie, troisième il a trouvé encore mieux, la Corée du Nord. du Nord. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que vous inspire cette première rencontre avec René Laloux également, qui était réputé pour avoir un caractère apparemment assez trempé?
Ben, c'est un caractère complexe, hein, René, qui peut être adorable, qui est un bon vivant, qui est aussi un coléreux. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand ça se passe pas comme il veut que ça se passe, il fait du bruit autour, dans les studios en particulier, hein, il était renommé pour ça. Mm-hmm. Et il le disait, j'ai un petit bouquin de souvenirs qu'il avait fait, enfin de je ne sais même plus où il est d'ailleurs ce bouquin, ou des petites sentences, des petites phrases sur, où il dit je suis tellement peu sûr de moi que je ne supporte pas qu'on soit pas sûr de qu'on me fasse perdre le peu de sûreté de moi que je peux avoir, quoi. Quelque chose comme ça, que je ne supporte pas la critique ou un truc comme ça. Donc, quand il y a de la critique, il bondissait et il avouait comme ça que c'était parce qu'il n'avait pas confiance en lui, quoi. Et je pense que c'est pareil d'ailleurs pour beaucoup de gens, enfin, qui ne supportent pas la critique. Mmh. C'est qu'il faut absolument se défendre. Donc ça c'est pour rentrer un peu dans sa psychologie. Et il était, à part ça, il était charmant. On mangeait avec lui, on mangeait bien. Il connaissait énormément le cinéma, il connaissait énormément la science-fiction. Le temps que j'ai passé chez lui régulièrement, donc quand on travaillait sur Gondard, j'ai pillé sa bibliothèque, enfin, parce que étant aussi moi-même un bon lecteur de science-fiction et ayant une bonne bibliothèque, mais je découvrais dans sa bibliothèque plein de trucs que je connaissais pas et donc que je lui empruntais. Ouais.
Est-ce que vous avez bien entendu, parce que vous avez peut-être pas ce caractère aussi justement aussi ombrageux, si vous aviez eu exactement le même caractère, peut-être que ça n'aurait pas collé entre vous.
Si j'avais eu ce même caractère, ça aurait clashé, sûrement. Il se trouve d'ailleurs que René s'est engueulé avec ses précédents collaborateurs, enfin les autres gens. Avec Topor, ils se sont engueulés pendant plus d'un temps. Après, m'a-t-il dit, plus tard ils se sont réconciliés, mais ils ont plus travaillé ensemble. Enfin, après toute la période où ils ont travaillé ensemble, mmh. Ils ont fini par s'engueuler. Pour quelles raisons, je ne sais pas, des raisons artistiques ou autres. Mmh. Avec Mébius, c'était assez... Mébius, à tort, à mon avis, n'aimait pas beaucoup le film, Les Maîtres du Temps. Mmh. N'a pas beaucoup aimé le résultat. Et René défendait en disant « Oui, mais Mébius, il n'a pas assez supervisé, il n'a pas été assez sur le coup, il n'est jamais venu en Pologne au studio, etc. » Donc, il y a toujours la part de l'un et de l'autre. Moi, avec mon caractère, je dirais bon garçon, quoi. J'ai appris, parfois en avalant des couleuvres, mais j'ai appris à négocier. Mmh. Me mettant toujours dans l'optique que c'était quand même lui le patron. Sur un film, c'est le réalisateur le patron. Pour moi, c'est pas le producteur non plus, c'est pas les autres, les accessoiristes ou quoi. C'est lui le patron. Mmh. Donc quand on n'était pas d'accord, c'est arrivé. On se disputait, enfin chacun défend son bout de gras, c'est quand même ça aussi une collaboration. Mm-hmm. Et puis si on n'était pas d'accord, on disait bon bah ok, on laisse ça de côté, on en reparlera demain. En général, j'attendais à ce moment-là, enfin, si moi, j'étais pas d'accord sur certaines initiatives, enfin, si je n'obtenais pas son accord sur certaines initiatives, je lui disais, bon, bah, vas-y, dis-moi ce que tu veux, et on le fait, tu vois. Mm-hmm. C'était... Alors, quelquefois, oui, quelquefois, il faut un peu prendre sur soi, quoi. Faut mettre de côté son ego.
Ce qui n'est pas évident quand deux artistes se rencontrent et collaborent ensemble. Ouais.
Mais non, c'est évident. On est... Et en plus, je dirais des artistes français. Quoi. C'est... Chez les Américains, il y a un tout autre rapport de collaboration sur les comic books ou les auteurs, enfin les dessinateurs, les encreurs, etc., collaborent, se partagent des personnages, etc. En France, on est des artistes avec un grand A, quoi. Enfin, un peu ce complexe-là. Et donc, il faut apprendre à... Enfin, pour moi, c'était beaucoup ça, quoi. C'était mettre de côté mon ego, et puis bon, bah, on se met d'accord, et c'est lui le patron. Quand on n'est pas d'accord, c'est lui qui tranche.
D'accord.
Et à ce moment-là,
voilà pour ce témoignage de Philippe Cazat. Alors, nous aurons l'occasion, bien sûr, d'évoquer la production de Gandhar avec Philippe Leclerc, qui a été assistant sur le film et qui a bien travaillé, notamment en Corée du Nord, et qui aura certainement des anecdotes assez savoureuses. Je sais que Philippe Cazat me confiait, notamment pendant cet entretien, que quand Philippe Cazat allait donc en Corée du Nord et qu'il formait ou il manageait un petit peu pour que les animateurs puissent mettre en puissent reproduire son trait, en fait, enfin effectuer des plans, là-bas ils avaient des cours de dessin, et c'était par détail anatomique. Il y avait ceux qui ne dessinaient que les pieds, ceux qui faisaient que les jambes, etc., et ceux qui faisaient des nus, ils faisaient les nus avec les personnes habillées. Sachant que Philippe Cazat me disait, moi je dessine toujours, pour reprendre son expression, les gens à poil. Donc il disait, j'aurais expliqué qu'il fallait vraiment dessiner l'anatomie dans ses détails les plus crus, et là-bas c'était une aberration. Donc voilà, dans ce genre d'anecdote, je pense que Philippe Leclerc pourra aussi nous l'évoquer un petit peu. Quelques petites images de Gandhar, parce que là malheureusement le temps presse. Parallèlement à la sortie, enfin la production de Gandhar, la collaboration avec Philippe Cazat se passe très bien. Il y a juste un court métrage qu'ils ont développé pour une série télévisée supervisée par René Laloux, qui s'appelle La Prisonnière, que tous deux ont un peu renié parce qu'ils ont estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment concentrés sur ce court métrage. Par contre, ils ont travaillé sur Wang Fo, comment Wang Fo fut sauvé, qui, selon René Laloux, est sa plus belle réussite avec La Planète Sauvage. C'était le film dont il était le plus fier, sachant que comment Wang Fo fut sauvé lui a demandé autant de travail que La Planète Sauvage, alors que ce n'est qu'un court métrage. Enfin, je dis ça sans que ce soit un jugement de valeur, mais en tout cas c'est un court métrage, donc plus ramassé. Et également en Corée du Nord, tout à fait, qui est un magnifique court métrage. Je vous le recommande si vous pouvez le visionner. Il y a eu un livre DVD, là c'est le visuel à gauche, et il est aussi en bonus dans le Blu-ray de La Planète Sauvage, je crois. Très très beau court métrage. Donc à la fin de sa carrière, donc René Laloux va se retirer et il va passer ses dernières années à Angoulême, à la fin des années 90, où il va diriger le département d'imagerie numérique de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, et signer des compilations de pensées, d'aphorismes. Il va écrire. Il ne désespérait pas de revenir à l'animation, puisqu'il avait un dernier projet de long métrage qui s'appelait Un monde tout neuf, qu'il n'aura pas pu mener à son terme en raison de sa maladie, puisqu'il nous a donc quittés en 2004. On peut voir sur cette petite diapo des personnalités qui lui reconnaissent en fait l'influence qu'il a eue sur l'animation, notamment japonaise, parce que par contre au Japon il y a toute une tradition qui va vraiment se développer dans les années 80-90 de science-fiction animée. En France, ça va être très très long. On va venir beaucoup plus tard avec une explosion de l'animation en France grâce notamment à certains Kirikou. Mais quand Planète Sauvage, Les Maîtres du Temps et Gandhar sortent, on est encore dans un marasme un peu économique, et c'est compliqué de faire aboutir des projets. Est-ce que René Laloux a des héritiers? C'est compliqué à dire, puisque évidemment René Laloux est un auteur donc singulier et il est lui-même unique. Les différents films qu'on peut apercevoir ici, qui sont très différents bien sûr du cinéma de René Laloux, notamment Pinocchio le robot, on peut imaginer difficilement René Laloux faire ce genre de film. Mais malgré tout, c'est de la science-fiction. Et quelque part, si ces films existent, jusqu'à Mars Express, le dernier qu'on aperçoit en bas, qui est sorti là, récemment, ils payent leur tribut malgré tout, quelque part, à René Laloux. C'est lui qui a quand même ouvert la voie vers de l'animation française pour adultes de science-fiction. Et clairement, ça a été un farouche défenseur de cette animation pour adultes et pas uniquement pour enfants, même si ces films peuvent également être vus par les enfants. Et il reconnaissait d'ailleurs que ces films étaient souvent mieux compris par les enfants que par certains adultes. Et à la fin de sa carrière, il reconnaissait ne pas avoir, entre guillemets, réussi à faire tomber les murs de la citadelle de Burbank où se situaient les locaux de Disney. Et Spielberg producteur, puisqu'on arrive à l'époque où DreamWorks arrive, où Spielberg produit des films de Don Bluth comme Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, Five, Les Nouveaux Mondes, etc. C'est pas vraiment le style de René Laloux. Et donc Spielberg producteur a pris la relève du grand Walt Disney pour émerveiller les enfants attardés et paresseux que nous sommes. Voilà. Donc René Laloux est un auteur avec un grand A. Et là, on va pouvoir, dans quelques instants, pouvoir enchaîner sur une rencontre avec Philippe Leclerc qui est dans la continuité, puisque Philippe Leclerc a travaillé notamment avec René Laloux, qu'il a bien connu, et d'autres auteurs majeurs de l'animation française. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci à Gersan de nous avoir mis en avant le cinéma de René Laloux. Je suis Sébastien, donc en charge de ce festival des Made in France. On vous remercie d'être venus aussi nombreux. On est agréablement surpris. Et merci encore à l'accueil des Volcans de nous permettre ce genre d'animation. Du coup, on va prendre 2-3 minutes, le temps que tu reprennes ton souffle un peu, et pour vous lancer donc avec la rencontre avec Philippe Leclerc dans quelques instants. Si vous voulez vous dégourdir un petit peu, vous avez 2-3 minutes, bien évidemment. Sachez qu'entre-temps, on a mis à disposition c'est notre coup d'essai, ce festival. On a un petit stand pour promouvoir notre festival, notre association aussi Geek and Dome qui nous soutient, et on a également quelques affiches. Voilà, si vous êtes intéressé, c'est à prix libre. Voilà, c'est notre seule recette du festival, c'est la vente à prix libre des affiches. Donc en tout cas, on se retrouve dans 2-3 minutes pour cette fameuse rencontre avec Philippe Leclerc et Gersan de Volute. Merci à vous et à tout de suite.